Welcome to Bouche à Oreille on Radio Verulam, the weekly show all in French every Monday from 9 to 10 p.m. You're listening to Aline and Elise tonight, and this is in assiette anglaise for you tonight until 10 p.m.
Bonsoir, bienvenue à Bouche à Oreille. Vous êtes en compagnie d'Aline et Elise pour une émission assiette anglaise, comme tous les lundis soirs de 21h à 22h. Et ce soir, nous commençons comme d'habitude avec Martin Clavier qui va nous parler d'expressions autour de quoi, Elise ?
Autour de la retraite.
Eh oui, on n'y est pas encore, mais enfin bon, ça viendra peut-être un jour.
Bonsoir Martin.
Bonsoir.
Bonsoir Martin.
Oui, alors, je vais parler de la retraite, là, parce que le sujet est d'actualité depuis que le gouvernement français veut remplacer les 42 systèmes de retraite qu'il y avait en France par un seul. Ouais, le même pour tout le monde. Et ça s'était installé petit à petit, chacun y avait trouvé ses avantages, et puis là, on veut remettre tout à plat. Alors, c'est ce qui explique des grèves et des arrêts de travail sans arrêt.
À n'en plus finir.
À n'en plus finir, oui. C'est les trains qu'on peut pas avoir, etc.
Bah, bon, mais c'est la tempête.
Oui, nous, on a la tempête.
Ça arrive devant la Chambre des députés lundi prochain. Donc, ça va commencer à discuter sérieusement, là.
Ouais.
Oui, alors, les expressions. Bon, on connaît évidemment des expressions comme battre en retraite ou faire une retraite dans un monastère, mais il y a des choses plus sérieuses que ça. Par exemple, il y a déjà longtemps, il y a Coluche qui disait « Avec la retraite, les mecs ont assez de fric pour vivre peinard jusqu'à la fin de leur jour. » Sauf évidemment s'ils veulent acheter quelque chose. Parce que c'est justement ça le slogan en ce moment, c'est que tout le monde est convaincu qu'il va y perdre quelque chose. Alors sinon, ailleurs on peut lire, j'ai cherché un petit peu, pour une retraite aux petits oignons, il faut de l'oseille. Oui, c'est ça, c'est le grand refrain, la retraite, oui d'accord, mais si on a les moyens. Un Anglais qui disait, il y en a certains qui commencent leur retraite bien avant de cesser de travailler.
C'est vrai.
C'est vrai qu'on en voit de temps en temps. Moi, je trouve que le problème avec la retraite, c'est qu'on n'a plus de jours de congé. et puis le retraité, il est satisfait de son présent, mais il n'est pas trop inquiet pour son avenir professionnel. Hein, tout ça, ça va dans le même sens.
Oui, c'est sûr.
C'est Michel Audiard, qui écrivait des dialogues pour des films en France, il disait « La retraite, faut la prendre jeune, si on veut en profiter.
» Je suis d'accord.
Alors, j'ai été voir aussi du côté de ces fameuses cartes qu'on offre aux gens qui prennent le jour de leur départ en retraite, une carte qui est signée par tout le monde, et on voit que l'imagination manque pas. Sur une carte, j'ai vu « La retraite, c'est ralentir pour vivre à fond. »
Ah, c'est pas mal, ça.
Oui. Alors, il y en a une plus osée, là, ça représente un rouleau de PQ sur la carte, et il y a écrit « La retraite, on n'est pas au bout du rouleau, mais plutôt à la fin des emmerdes.
» On s'excuse pour les gros mots, bien entendu,
oui,
bien
oui.
entendu.
Et puis, une en anglais, là. « I'm retired, do it yourself. » sur la carte qu'on offre. Après avoir filé droit, voici le temps venu de tourner en rond. Mais bon, je m'arrêterai là parce que les cartes, souvent, elles sont pas drôles et ça vole vraiment pas haut. Hein. Déjà, celles que je vous ai citées, ça volait pas très haut, mais il y en a des pires que ça. Non, il y a une chose qui est très drôle, c'est que le mot retraite, il est toujours accompagné de l'expression bien méritée.
Oui, alors que c'est pas forcément toujours bien mérité.
Ouais,
il y a peut-être des fainéants qui.
Ouais. Il y a des fainéants, mais la retraite, elle est bien méritée. C'était un humoriste français qui disait il y a trois grandes époques de l'humanité. Il y a l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge de la retraite. Et quand les femmes travaillaient pas, on disait la retraite, c'est deux fois moins d'argent et deux fois plus de mari.
C'est bien.
Quand on passe en revue tout ce qu'on dit de la retraite, ce qui prime, c'est le repos quand même, la fin du travail obligé, l'absence d'obligation. Hein, il y a des il y a un retraité qui disait je constate que le travail c'est bien une maladie. La preuve c'est qu'il y a une médecine du travail. plus sérieux, hein, quand même, il y a des choses plus sérieuses. Il y a les clés de la retraite, c'est de trouver la joie dans les petites choses. Et puis, ou Madame de Stael, alors là on est fin 18e, qui dit la monotonie dans la retraite tranquillise l'âme, la monotonie dans le grand monde fatigue l'esprit. Voilà. Ou un autre écrivain, Amiel, en 1880, le meilleur de tous les biens, c'est la retraite tranquille et paisible, chez soi, loin de tous. Et là, j'ai trouvé une citation, alors je vous laisserai deviner qui a dit ça et quand. Le Français travaille pour vivre et s'amasser une retraite, l'Allemand frémit à cette idée de retraite et vit pour travailler.
Ah.
Hein, le Français travaille pour vivre et s'amasser une retraite. C'est Chateaubriand qui a écrit ça. On penserait que c'est beaucoup plus moderne.
Ben oui.
Ça fait un petit bout de temps que le Français a cette façon de voir les choses, là, de travailler pour vivre et s'amasser une retraite.
Ouais.
J'ai trouvé un certain George Mikes, un auteur anglais qui est mort en 1987 et qui disait « Pour tout Français, la retraite est le but suprême de l'existence. C'est avec joie qu'il envisage sa vie de vieillard, mastiqué avec une mâchoire édentée, semble être le comble de ses délices.
Ah » oui, ça lui fait vraiment envie. Hein.
Alors, ça fait envie. Ça.
Ah oui, oui.
Ouais, parce que c'est vrai que la retraite, ça apparaît rarement sous le côté d'échéance physique, mais alors que pourtant, ça a des chances d'arriver. Victor Hugo, ami, dans ma douce retraite, à tous vos mots, je dis adieu. Ou Marivaux, qui avait plus d'ambition, la retraite et le célibat, voilà toute mon ambition. La retraite est un port où il faut se réfugier après les orages de la vie. Hein, bon, il y a tout un tas d'auteurs célèbres qui ont donné leur point de vue comme ça. Alors, j'ai trouvé aussi, en ce moment, justement, avec cette réforme des retraites, il y a des petits dessins humoristiques dans les journaux français. Et il y a un dessin que j'ai trouvé, un petit vieux sur un banc dans un jardin public qui parle à un pigeon. Et qui dit « Maintenant, ce sont les pigeons qui nous lancent des boules de pain ». On voit le dessin.
C'est cruel.
Il y a un humoriste il y a quelques années qui disait de toute façon la bonne santé persistante des retraités finira par tuer notre économie. C'est peut-être pas tout à fait faux.
Oui, c'est vrai.
Et puis sinon, il y a une question. Hein. Est-ce que les heures passées sur Facebook, ça compte pour la retraite?
Ben, ça devrait, hein, ça devrait,
ça devrait,
à mon avis.
Hein, c'est comme le temps passé sur Radio Verulam, mais c'est ça pour la retraite. On vous le dira.
C'est vrai.
Bien, c'est vrai. Ben voilà, j'ai fait un peu le tour de la retraite, là. C'est tout ce que j'ai trouvé.
Ben, merci beaucoup, Martin.
C'est un programme, hein, ça donne pas envie de travailler, tout ça.
Non. Exactement, exactement. Mais malheureusement, on en a encore pour quelques années, Élise, hein, je pense.
Ah, oui, on en a encore un petit peu.
Non, non, personnellement, je vois ça de l'intérieur, mais il y a des tas de choses, ouais.
Merci beaucoup, Martin. À la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.
Allez, bonsoir.
Bonsoir. If you've just tuned in, you're listening to Bouchare, Radio Verulam's weekly show, all in French. We're with you every Monday from 9 p.m. to 10 p.m. on 92.6 FM.
Et oui, vous écoutez Bouche à oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam. Nous sommes à l'antenne tous les lundis de 9h à 10h avec Hélène et Alice. Ah, ça fait longtemps.
Ça nous a fait un remis.
Ça fait longtemps.
Remarque,
qu'on
ça serait
ça.
Sympa, ça. Hélène et Alice.
Ouais.
Il y a Alizé. C'est vrai qu'Alizé, ça existe. Et Lina aussi, peut-être. Bah, je pense qu'il est temps qu'on fasse un petit peu la pause,
oui,
peut-être.
Non, moi, je voulais juste rebondir sur
Vas-y.
Ce que nous disait Martin.
Vas-y.
Merci. Ouais. Il y avait une chanson de Benabar qui s'appelle Monsieur René, qui est justement sur la retraite. Et il y a quelques petites des phrases que disait Martin qui m'ont fait penser aux paroles de cette chanson, où Benabar disait: Monsieur René aura tout le temps de faire ce qu'il pouvait pas avant, bricoler, ranger le garage, babysitter les petits enfants. Et puis il disait aussi que c'était partir pour des grandes vacances sans septembre qu'il est fini. Et la retraite, ce sera toujours dimanche, il n'y aura plus jamais de lundi.
Et maintenant, on rejoint Mélanie et ses Nouvelles Culturelles de France. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir mesdames.
Alors, dis-nous ce que tu nous as préparé pour ce soir.
Donc pour ce soir, je vous ai préparé un petit peu de cinéma, d'actu ciné et une petite expo.
D'accord. Alors, on commence par le ciné ?
Oui, avec plaisir. Donc, on commence avec un film de Régis Roinsard.
D'accord.
Très facile à dire.
Oui, oui, je vais pas...
Pour nos amis britanniques,
oui.
N'est-ce pas ? Qui s'intitule Les Traducteurs et dans lequel joue Lambert Wilson et 9 autres acteurs qui viennent du monde entier. C'est un thriller.
D'accord.
Et c'est l'histoire de 9 traducteurs, triés sur le volet, qui sont confinés dans un luxueux bunker afin de traduire le dernier roman d'un auteur très connu en un temps record.
Mmh.
Prend des précautions, mais malgré ces précautions, c'est-à-dire qu'il les enferme, tout est chronométré, donc je ne divulgâche rien du tout.
Oh, tu attends.
Divulgâche, ouais.
Divulgâche.
Vous ne savez pas divulgâcher ?
Si.
Je connaissais pas
moi,
ça.
Je connaissais.
Ah,
ouais.
Ah, je suis transfixée là.
T'es transfixée ?
C'est exactement ça.
Donc on leur enlève tous leurs portables, on fait en sorte, voilà, on les met dans un bunker, ils sont enfermés. Mais malgré toutes ces précautions, les 10 premières pages du livre sont dévoilées sur Internet. Et l'éditeur se retrouve au cœur d'un chantage financier où il doit bien évidemment verser la somme de 5 millions d'euros pour que le piratage cesse, puisqu'on lui dit qu'il y a les 10 premières pages qui sont révélées, mais qu'ils en ont beaucoup plus. Et à ce moment-là, commence une chasse. Pour découvrir bien évidemment qui est le fautif. Un peu à la mode, je dirais, on sent un petit peu quand même Lady Tinaigre et Agatha Christie derrière.
Oui, j'allais le dire.
C'est un petit peu ça, ouais, ça sent un petit peu ça. Alors, on connaissait Régis Roinsard, parce que c'est un thème quand même assez original, que ce thème-là, et il avait déjà fait un film qui avait plutôt bien fonctionné et qui était tout aussi original. C'était Populaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Romain Duris, et c'était sur un concours de dactylographie.
Ouais, je m'en souviens.
L'histoire de Romain Duris, je ne sais plus comment s'appelait son personnage à l'époque, mais qui décidait d'emmener une de ses secrétaires au grand concours de dactylographie et de la faire gagner. Donc, en tout cas, il est déjà sorti ce film et il est quand même sacrément plébiscité.
Sympa.
Par le public, et donc ça fonctionne pas mal, d'autant plus que il semblerait, de ce que j'entends, qu'il y a de nombreux rebondissements inattendus dans ce film. Donc,
très bien, et ben merci. Promis. On va mettre on t'entend toujours. Je vais mettre le lien sur la page Facebook, comme ça les auditeurs pourront regarder la bande-annonce.
Bon, ben, très bien. Et j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, je vais faire comme à la fin, fin d'année dernière.
Hein. Oui.
J'ai préparé aussi une petite sélection de DVD.
Fantastique, et tu la mets directement sur la page Facebook.
Que je mettrai directement également pour que les auditeurs puissent aller voir éventuellement ce qui est sorti, s'ils veulent se procurer les films dont on a un petit peu parlé. Ou pas,
très bien,
super, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont peut-être faire un saut dans l'Hexagone pour les vacances scolaires sont pour nous la semaine prochaine. On retrouve Mélanie et ses Nouvelles Culturelles. Alors, tu vas nous parler d'un deuxième film, il me semble.
Oui, absolument. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Je ne sais pas si ce titre vous dit quelque chose. C'est un livre et le best-seller d'Anna Gavalda, déjà il y a quelques années, et Arnaud Viard a décidé de l'adapter au cinéma, avec dans les rôles principaux Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni et également Elsa Silberstein. L'histoire c'est que dans la belle maison familiale, à la fin de l'été, Aurore fête ses 70 ans et elle est entourée de ses 4 enfants qui sont tous venus pour l'occasion. Plus tard, un jour, l'un d'eux va prendre une décision qui changera leur vie à tous.
Wow.
Voilà le petit... Donc c'est une comédie romantique, dramatique, voilà. C'est, mais avec de sacrés acteurs et elle-même, il est déjà sorti également et ça se passe plutôt bien sur les écrans.
Super.
Ensuite, je voulais vous parler d'un troisième film qui s'appelle Sol, S-O-L.
Comme soleil en espagnol, donc.
Absolument.
Lo hablo muy bien.
Bah oui, j'oublie fréquemment que t'es bilingue espagnol.
Oui, trilingue.
T'es trilingue espagnol.
Ouais. Attention, attention.
Je s'appelle Marquez.
C'est.
D'accord.
C'est.
Dans lequel jouent Chantal Lobby, Camille Chamou et Giovanni Pucci.
Non.
Giovanni Pucci, on ne connaissait pas forcément, mais c'est un petit garçon. En fait, Sol, c'est une célèbre interprète de tango argentin qui vit à Buenos Aires depuis de nombreuses années. Et derrière un tempérament qui est plutôt excessif et un sourire absolument magnifique, cette diva, elle cache une blessure dont elle ne s'est jamais réellement remise. C'est la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tous les liens. Et Sol, en fait, décide de revenir un jour à Paris dans l'espoir de rencontrer enfin son petit-fils, Joe, qui a 7 ans, qui est, lui, né de l'union de Raphaël et d'Eva, sa belle-fille, mais qu'elle ne connaît absolument pas.
Et elle se fait passer...
Je ne vais rien gâcher et elle va se faire passer... Oui, pardon.
C'est ça, elle se fait passer pour la nanny, c'est ça?
C'est ça. Elle se fait passer pour la nanny et elle rentre dans le, elle rentre au sein de, voilà, de l'intimité familiale.
Bah c'est Mrs. Doubtfire alors, hein, plus ou moins.
C'est un petit peu, voilà, un peu Mrs. Doubtfire. Et elle, quand elle arrive à Paris, elle a un confident, probablement un, on ne sait pas exactement qui c'est, mais c'est un ami à elle et qui arrête pas de lui dire qu'il faut surtout pas faire ça. Et en fait, elle n'arrive pas à s'en détacher. Et puis on verra ce qu'il s'en passe.
Sympa.
Ouais, la bande annonce est très sympa.
Super.
C'est sympa et puis Chantal Lobby voilà, c'est Chantal Lobby.
Ouais, tout à fait.
On prend un petit coup quand même parce que Chantal Lobby en mamie, c'est quand même.
Oui,
ça
oui,
nous rajeunit pas quoi, c'est ça.
Ça ne nous rajeunit pas, c'est clair. Mais c'est vrai que ces dernières années, elle avait quand même été aussi avec Christian Clavier, elle était quand même la mère de famille de ses 4 filles qui se marient. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
Oui, c'est
vrai. À la mère avec Christian Clavier. Donc c'est vrai que tous ces acteurs-là, ben en même temps, on vient de fêter là les 40 ans des Bronzés Fonds du Ski quand même. Hein.
Ouais,
à Val d'Isère, il y a eu une grande réunion avec le planté de bâton.
Le planté de bâton. Et puis, moi, je crois que je vais conclure ce soir. Je crois que je vais conclure.
Ouais, voilà. Quand te reverrai-je.
Exactement. Bah moi je chanterai ça sur les télésièges, je pense, la semaine prochaine. Alors pour finir, Mélanie, il me semble que tu vas nous parler rapidement d'une expo, c'est bien ça?
C'est ça. Je voulais vous parler d'une expo. C'est une expo qui il faut imaginer partir à la découverte de la savane, toutes ces étendues à perte de vue, un soleil cuisant et soudain un lion, une girafe ou un rhinocéros. Et puis malheureusement, dont on sait que l'écosystème est menacé par l'activité notamment humaine et dont il est primordial de garder l'intégrité et la beauté. Ben, c'est ce que vous invite à faire le Muséum de Bordeaux du 4 février au 31, on a le temps, hein, jusqu'à la fin de l'année, au 31 décembre 2020, dans une exposition interactive et ludique qui s'appelle Afrique, savane sauvage.
Sympa.
Et un tout petit mot, si vous me permettez, vraiment vite. Le 28 février prochain, c'est la cérémonie des Césars, qui est présentée par Florence Foresti, qui est présidée par Sandrine Kiberlin, et dont l'affiche est absolument magnifique, et qui est en hommage à Anna Karina. C'est une affiche en noir et blanc.
Sympa.
Anna Karina était la muse de Jean-Luc Godard, et l'interprète de Sous le soleil,
exactement.
Voilà, de Gainsbourg, et qui est disparu le 15 décembre dernier.
Super.
Donc voilà, je voulais vous parler de ça et vous dire que le film qui a le plus de nominations cette année, c'est le J'accuse de Roman Polanski, et qui, à l'instar du moment de sa sortie, crée à nouveau forcément la polémique,
compte
tenu de l'histoire du du réalisateur, mais hormis ça, les autres films qui seront en compétition avec ce film-là sont La Belle Époque, Grâce à Dieu, Hors Normes, Les Misérables, Portrait de la jeune fille en fleurs et Roubaix une lumière. Tous ces films, on en a parlé sur Radio Vérolème.
Et bien sûr, sur Bouchard et Badmer.
Merci Mélanie.
Bah, tu nous feras un compte-rendu le mois prochain. Merci Mélanie.
Avec plaisir.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Et Pierre est au bout du fil pour sa sélection littéraire. Bonsoir Pierre.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir les filles, bonsoir auditrices et auditeurs francophones et francophiles.
Ah bah je vois qu'il n'y a pas que moi qui est secoué le cocotier avec Bissot Nabisso. Est-ce que vous aussi vous étiez en train de danser?
Non. J'écoutais sagement, mais
d'accord,
voilà.
Sagement et calmement. Alors, Pierre, ce soir, une fois de plus, vous tenez à dédicacer cette chronique à quelqu'un. Et ce soir, c'est à Pierre Guyotat, une grande figure des lettres françaises qui s'est éteinte vendredi dernier. Confiez-nous ce qu'il vous a appris à travers ses écrits.
Ben, écoutez, je vais déjà vous dire en deux mots qui il est.
Oui. Hein.
Alors, c'est un homme qui a quand même marqué son temps.
Mmh.
Alors, il a été quand même emprunt au cœur de différentes controverses, bien qu'il ait eu quelques prix. Alors, notamment, il a eu le prix Décembre en 2006
pour
un livre qui s'appelait Coma. Et puis, il y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous en souvenez, il a vu le prix Médicis, c'était en 2018, pour Idiotie. Mais il a eu aussi le prix Femina. Et puis, je dois dire qu'en 2010, eh bien, il a été distingué par l'Académie française.
Ah, quand même.
Alors,
rien que ça.
Oui. Oui. Alors, je voudrais quand même lui dire que cet écrivain a toujours préféré, disons, l'ombre à la lumière.
Mm-hmm.
Et il va rester de celui-ci deux grandes œuvres. D'abord, Tombeau pour 500 000 soldats, qui était en 1967.
Mm-hmm.
Et peut-être, on doit le dire, ce fut quand même le plus grand livre sur la guerre d'Algérie.
D'accord.
Et puis on a Eden, Eden, en 1970.
Oui.
On dira qu'il a été jugé un tantinet pornographique par les autorités françaises de l'époque.
D'accord.
Donc ce qui fait qu'il y a eu interdiction de publicité, d'affichage et de vente aux mineurs.
D'accord.
Il aura fallu attendre 1981 pour que quand même on puisse voir ce qui se passe à défaut de l'Est d'Éden, au cœur d'Éden.
D'accord, c'était le paradis interdit aux moins de 18 ans, on va dire. Hein.
Voilà, donc voilà. Alors donc en fait, Guyotat, il est né le 9 janvier 1940, mm-hmm. père médecin. Et puis d'une mère polonaise. Il a commencé à écrire au cœur des années 50, aux environs de 54.
D'accord.
Puis quand sa mère est décédée en 58, eh ben il a donc décidé de quitter sa famille. Et puis il monte à Paris. Puis alors là, il est appelé pour la guerre d'Algérie.
Ouais.
Puis il est arrêté en 62 dans la Grande Kabylie parce qu'on appelait la sécurité militaire. Il est inculpé, tenez-vous bien, d'atteinte au moral de l'armée, de complicité, de désertion. Bon, vous voyez, c'est une forte tête. Il va subir des interrogatoires pendant 10 jours.
Ouais.
Il va être mis au secret. Enfin bref, toujours est-il que ça va certainement le marquer.
Ouais.
Et donc ce fameux Eden, qui va sortir en 70, tenez-vous bien, a manqué d'une seule voix le prix Médicis. Alors quand même, un futur prix Nobel, à savoir Claude Simon,
ouais,
était tellement furieux de cette décision qu'il a décidé carrément de démissionner du prix Médicis, du jury du prix Médicis.
Parce qu'il voulait vraiment qu'il ait le prix, en fait, c'est ça.
Ah bah oui, parce que quand même, c'était une... Voilà, donc je peux vous dire que là, ça a quand même fait un méga scandale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Guyotat? C'est que finalement, il a pris vraiment sa revanche, on va dire à peu près 48 ans plus tard, avec Idiotie,
mm-hmm.
qui constitue quand même son œuvre testamentaire et qui va nous permettre de comprendre son parcours. Voilà, son rapport qu'il peut avoir au colonialisme, à la pornographie, à l'abjection, à l'humiliation. Bref, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire sur cet homme qui a quand même une œuvre qui a été traduite dans plusieurs langues et sur lequel bon nombre de personnes se sont penchées, font des essais, etc., etc., etc.
Ouais. D'accord. Ben moi, je ne le connaissais pas, donc merci de nous l'avoir fait découvrir. Alors, notre première halte dans la galaxie littéraire francophone est en Suisse, en compagnie de l'écrivain tuniso-helvète Rafik Ben Salah.
Oui, alors voyez-vous, au récit d'Helvétie, tel est le titre de ce joli, joli livre. Alors vous savez, il y a 10 petites vignettes qui vont nous montrer un petit peu la Suisse fantasmée de l'auteur, d'abord quand il avait une douzaine d'années, on va dire 11-12 ans, et puis qu'il habitait dans sa Tunisie. Puis il se trouve que 9 ans plus tard, il débarque franchement en Suisse. Et alors là, je peux vous dire que la réalité va se cogner au rêve, quelque chose d'intéressant. Mais moi, ce que j'aime bien dans ces petites histoires, c'est qu'il y a souvent, il a recours aux contes. Et c'est vraiment une écriture savoureuse, goûteuse, jubilatoire. Franchement, c'est...
Ah, d'accord. ça vous fait halter, visiblement.
Oui, je trouve ça vraiment super.
Alors si après ça, on va se diriger...
Attendez,
j'exagère. Oui,
allez-y. Je voulais vous dire un petit peu des choses qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait carrément rire.
Ah oui, alors, vous avez un exemple, il me semble.
Oui, c'est le conte de Nawel qui se passe à Lausanne. Alors, comme vous voyez, Nawel,
Oui.
Alors, après la mort du père du petit héros, qui ne voulait plus voir son fils parce qu'il avait épousé une chrétienne, voilà que un miracle se produit dont le sort n'a vraiment qu'un seul tour, le secret. Vous savez ce qu'on appelle tout ça le coup du sort. Et bien figurez-vous qu'au détour d'une rue, le fils va croiser sa mère. Et bien sûr, comme de bien entendu, puisqu'il s'agit d'un conte, tout finira bien. Et c'est normal, puisque c'est quand même un conte de Noël.
D'accord, j'ai compris. Alors, après Nawel, n'est-ce pas, et Noël, nous dirigeons au Sénégal avec Yacouba Diémé, Boy Diola, pour une oscillation entre Casamance et région parisienne. Donc encore un pied en Afrique et un pied en Europe.
Oui. Tout à fait. Alors, comme le titre l'indique, le héros de l'histoire est originaire de la Casamance. Bon, je précise pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec les peuples de l'Africain, la terre des Diola se trouve dans cette région du Sénégal, dans laquelle on va retrouver la Gambie, un tantinet encastré. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Et l'auteur va retracer en quelque sorte l'histoire de son père. Depuis le départ de sa forêt natale. Et alors, à partir de ce moment-là, on est à peu près au milieu des années 60. Et puis, c'est l'époque où la France a besoin de bras. Elle va recruter des ouvriers sur place, et notamment pour Simca, pour Citroën. Alors, tout au cours de ce récit, on va assister à la fois à une quête des origines, et puis une piété filiale. En fait, pour que rien ne s'efface, pour affirmer la trace. Alors, en lisant le premier voyage de l'auteur, qui lui est né en France, avec son père et ses frères au Sénégal, j'ai ressenti l'authenticité du récit. Les lumières, les fragrances, les bruits, le souffle lourd du vent, les volailles et caprins dans le taxi-brousse. Bref, les sens en alerte, les sens en éveil. Alors, voyez-vous, il y a un moment donné, vraiment, on voit la lutte de son père quand il était jeune homme pour survivre d'abord dans la capitale à Dakar, l'écrasement qui est éprouvé par les va-et-vient incessants de manœuvres de dockers, de navires au port, puis la traversée de l'Atlantique qui était voulue et redoutée, puis le poids de la culpabilité de laisser la famille derrière soi pour bâtir un avenir. Puis vont arriver les tracas d'existence de tout exilé, la camaraderie parfois aveugle, voire même traîtresse, la découverte et l'incompréhension des syndicalistes et du syndicalisme, l'acquisition d'un pavillon de banlieue, et puis la construction d'une maison au pays natal. C'est une odyssée humaine. Là, on voit que nous avons affaire à une vie singulière qui est placée sous le sceau de ce que j'appelle l'homme-monde. Franchement, Aline et Élise, c'est vraiment à lire sans modération. Et je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Ce livre, il a été retenu dans ce qu'on appellerait la courte liste.
Ouais, la short
pour,
list, ouais.
Le prix, voilà, ouais. Pour le prix des romans des auteurs des Afriques qui sera décerné dans quelques mois au Salon du Livre de Genève.
Ah, bah, d'accord. Vous connaissant et connaissant vos prédictions toujours très, très pointues, on l'attend donc au détour de ce prix. On se retrouve dans un tout petit instant, Pierre. Restez avec nous.
Radio Verulam, 92.6 FM. Stay in touch with what's going on in St. Albans at our award-winning website, radioverulam.com. Your one-stop source for what's going on around the city. With great podcasts, including extra bits from your favourite Radio Verulam programmes and presenters. And listen again to shows you've missed or just can't get enough of. It's all online and all for you. Award-winning local radio for St. Albans. Radio Verulam.
92.6 FM. Radio Verulam.
Alors, on retrouve Pierre qui nous fait le tour de la galaxie francophone. Et après le Sénégal, nous partons au petit trot avec Cowboy de Jean-Michel Espitalier.
Alors oui, c'est franchement un vrai roman d'aventure comme je les aime. L'auteur va nous narrer l'histoire de son grand-père, Eugène, qui est né vers 1887 et qui est parti de son village des Alpes de Haute-Provence avec son frère, pour l'inconnu. Ils vont débarquer en Amérique. Wow. Alors finalement, ce sont les tribulations supposées de ce voyage aller-retour de l'aïeul de Jean-Michel Espitalier. Alors franchement, moi, je vais vous dire, l'écriture, elle est admirablement soignée. Une langue qui est au bord du déséquilibre pour narrer les grands vides géographiques qui ne sont que les miroirs du déchirement qui va traverser l'être, à savoir le désarroi, le mal du pays, la nostalgie qui hante l'âme inquiète de son grand-père. Vous savez, Jean-Michel Espitalier, il va user franchement de la poésie qui est l'une de ses nombreuses cordes qu'il a à son arc pour souligner les silences et les fulgurances, les fragmentations de l'âme et les répétitions. Franchement, c'est un superbe livre.
Ouais.
Superbe, superbe.
Ouais, c'est vrai que ça donne
envie. Oui, ça donne envie.
Ouais, ouais. Ça donne envie de le lire. Et on voit nettement qu'il y a quand même un fil rouge des errances. La lutte pour éviter l'effacement du temps. Diola Boy, c'est avant. Mais comment est-ce que vous ressentez Cowboy?
Oui, mais si vous voulez, Diola Boy, c'est même carrément avant.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on va vous donner, si vous voulez, l'auteur, il se rend bien compte qu'il y a eu quelque chose qui lui est encore inaccessible. C'est ce qu'a pu vivre son père il y a très très longtemps,
ouais.
Ce qu'on appelle donc l'avant-avant.
Mm-hmm.
Mais là, vous voyez, dans ce voyage au bout de la nuit, dont Eugène ne sort franchement pas indemne, et dont le petit-fils va s'emparer ici pour l'avoir sans vraiment avoir vu, hein. Là, vous voyez, c'est vraiment une écriture des confins.
Ouais.
Hein. Eh bien, il va ouvrir un imaginaire presque illimité. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est le parti pris narratif de l'aller-retour, qui est franchement très, très innovant. Le paysage qui défile, eh bien, il va en appeler un autre. On assiste en quelque sorte à un rembobinage d'une pellicule. Le rêve s'évade. Je n'ai absolument jamais vu une telle maestria dans la collision des temporalités, grâce notamment au nombreux, peut-être, au recours à la forme interrogative. C'est tout à fait novateur. C'est tout à fait novateur.
Ça donne envie de le lire. J'imagine ça presque comme une cinématographie. Vous le décrivez presque comme un film, en fait, roman.
Oui, oui.
Alors,
oui.
On va achever notre révolution sidérale et sidérante avec la chute, entre parenthèses, les derniers jours de Robespierre, de Jacques Ravenne.
Alors, vous savez, Aline, Jacques Ravenne, c'est un conteur né. Mmh. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, je vous ai parlé du Loup des Cordeliers.
Ouais.
Oui.
Ah ben bah, voilà, Élise aussi, elle s'en souvient.
Moi, je m'en souviens. Ouais.
On y croisait Danton, Saint-Just, en pleine forme, plein d'ardeur, etc.
Ouais. Bah,
figurez-vous que là, dans la chute, dès les premières pages, quand il était les premières, c'était la première page.
Mmh.
Hein, et bien, figurez-vous que ces deux gaillards perdre la tête, on les voit dans les paniers. La tête au propre et non au figuré.
D'accord. On l'a compris, la guillotine a...
Il va guillotement, hein. Il y aurait la guillotine. Alors, tout ce livre est plein de ressorts et il est plaisant à lire. On va assister au dernier jour de Robespierre. Mm-hmm. Cette séquence historique, vous le savez, se déroule sous le mois de...
Thermidor comme le homard.
Ouais. Eh oui, alors, effectivement, alors, la Terre est terrorisée, la terreur est terrorisée, et dans cette intrigue, on se demande si le cours de l'histoire avec un grand H aurait été dévié si Talien, pour sauver sa bien-aimée croupissant dans une sombre geôle et promise à la guillotine, n'avait trouvé le courage, avec des alliés, de renverser Robespierre avec l'implacable corollaire que cela implique.
Alors, on finit quand même avec une note plus rose, hein, plus corail, on va dire. Thermidor, ça fait un peu homard, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. On a un humour bien particulier, faut bien le dire. Racontez-nous l'aventure singulière que vous avez vécue le 24 janvier.
Oh, écoutez, je ne sais, c'est vraiment la version rote et légère de Omar m'a tué. Alors, j'étais avec des amis nervaliens.
Oui.
Et nous nous sommes retrouvés au Père Lachaise pour boire une bisque de homard et lire un texte de Théodore de Vandeville pour honorer la mort de Nerval qui, est veillé par le buste d'un certain Balzac prénommé Honoré. Mais pour que vous sachiez pourquoi nous avons bu le homard, c'est que Nerval, alors dans le petit coin du Nord où j'ai vraiment mes habitudes, on a coutume de dire quand quelqu'un est un peu frappé,
qu'il
a été bercé près du mur. Bon, alors effectivement, là, il se trouve que Nerval, il était assez courant de le voir se promener avec un homard en laisse. Et ça, dans la cour du Louvre.
Bah pourquoi pas, hein. Moi, alors, je vais essayer ça à Saint-Alban aussi. Hein,
alors, tout le monde se disait, oh non, mais là ça va plus. Hein. Mais alors, de docte personnage très féru de la vie de Nerval, vont nous dire que, attendez, tout ceci c'était pour rire, parce que c'était l'époque où les grandes dames se promenaient avec des petits chiens en laisse.
Oui.
C'était la grande mode.
Mais pas des homards. Ouais.
Puisque vous avez un chien, pourquoi je ne prendrais pas un homard? Voilà. Hein. Et puis bon, il faut savoir qu'à l'époque, le homard, c'était quand même pas un mets de roi. Hein. Bon, d'accord. C'était le mets des marins.
D'accord, donc, c'était pas
aussi... Je ne vais pas dire que c'était vil, mais enfin, ça n'avait aucun... Il ne faut pas voir ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas penser que c'était une denrée extrêmement chère, précieuse, etc.
D'accord, c'était moins sophistiqué qu'aujourd'hui. Eh bien, on va se quitter donc sur cette note, j'allais dire poissonneuse, mais non, crustacéenne. Hein, on va dire ça comme ça. Je sais même pas si c'est un adjectif. Merci.
Oui, oui.
Merci beaucoup.
Voilà, pour cette c'est balade. C'est nervalien, mais pas narvalien.
Non. Je garde ma corde pour moi. Merci beaucoup, Pierre.
Allez,
et au mois prochain.
Francophonie, francophile, c'est entendu.
Au revoir.